الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فهو قولي. On avait vu au tout début des programmes concernant les signes de Qiyamah que les Ashraf Sa'a, ces signes de Qiyamah se distinguent, se divisent en deux catégories. Il y a les petits signes de Qiyamah et il y a enfin les grands signes de Qiyamah. Et on avait vu également quelle était l'importance du fait de maîtriser, de connaître quels sont les signes de Qiyamah, comment cela était profitable pour l'iman de la personne. Et qu'une personne ne verra son iman sur Al-Yawm Al-Akhir, la foi sur l'au-delà ne sera jamais complète tant qu'elle ne saura pas exactement les petits signes et les grands signes de Qiyamah, quand est-ce qu'ils vont arriver et quelles seront leurs conséquences sur la vie du din et la vie du dunya. On a vu également que comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette terre avec un ordre précis en respectant un tartib, de la même manière Allah subhanahu wa ta'ala détruira cette terre dans un ordre précis. Il y aura des événements qui seront échelonnés sur des siècles, voire des milliers d'années, qui amèneront jusqu'à la destruction du monde. C'est ce qu'on appelle le Qiyam Sa'a, la fin du monde. Donc, tant que les signes de Qiyamah ne se seront pas concrétisés, ne seront pas accomplis, Allah subhanahu wa ta'ala ne détruira pas ce dunya. On a vu également, ça remonte à une année environ, on a vu également que le prophète qui avait le plus appris sa communauté, le prophète qui avait le plus donné d'importance à ces signes, c'était notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba racontent qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était adressé à eux et de salat en salat, il continuait à faire des khutbah. Quand on parle de khutbah, c'est-à-dire des mises en garde, des avertissements, et il a enseigné aux sahaba tout ce qui devait avoir lieu jusqu'au Qiyamah. On a vu également qu'une des règles à retenir, c'est que tous ces signes de Qiyamah, ça fait partie du ilmul ghaib, ça fait partie de la foi en invisible. Il est important de croire en ces signes avec iman yaqin, même si certaines choses peuvent ne pas paraître plausibles, ne pas paraître possibles, car cela dépasse l'entendement, cela dépasse l'intelligence humaine. Et on a dit que l'idée, même le concept même de fin du monde, est quelque chose d'inconcevable pour un scientifique. Une personne qui ne croit qu'en ce qu'elle voit, qui a un esprit cartésien, qui ne croit que à la science, aux découvertes scientifiques, pour un scientifique donc, la notion de fin du monde n'existe pas. Ils vous diront peut-être qu'en 2012, il y aura tel événement, ou que dans tant d'années, il y aurait un astéroïde qui s'écraserait sur la Terre, qui provoquerait éventuellement un bouleversement climatique, mais il y a une chance sur 100 000 pour que cela se produise, etc., etc. Des éventualités, possibilités de catastrophes naturelles, ou de catastrophes venues d'autres, au-delà de la Terre, mais la notion de fin du monde, comme nous le présentons, comme le prophète Hassan nous l'a présenté plutôt, avec un dunya qui se termine par ordre divin et qui après ce dunya se succédera un autre alam. Et ça c'est important, parce que lorsqu'on parle de fin du monde, c'est pas la fin de tout, ça on a bien compris. Lorsque le prophète Hassan nous parle de fin du monde, c'est une étape qui se termine pour laisser place à une autre étape qui elle va être plus longue encore, c'est l'étape du akhirat. Et pour, après l'étape du akhirat, ce sera la dernière étape qui n'en est pas une, mais qui est la phase éternelle, c'est l'accès au paradis ou alors l'accès en enfer, nas'alullaha al-afiyah. Donc c'était à peu près les règles générales qu'on avait vues sur les signes de Qiyamah. Et on avait vu, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 points, quels sont les fawa'id, quels sont les intérêts à connaître chaque branche de la foi. Ça c'était un peu long, le iman en Allah, le jour de Qiyamah, le destin, etc., etc. Qu'est-ce que cela apporte dans la foi du musulman? On a vu également que certaines personnes peuvent parfois penser qu'il y a des sujets plus importants à aborder, à traiter, et qu'il n'est pas nécessaire de parler de choses qui ne vont pas peut-être se produire dans les années à venir. Mais il faut également savoir qu'on avait expliqué en 4 points que si personne ne parle de la venue de Dajjal, de l'imam Mehdi, de Ya'juj, de Ma'juj, ben, cela concrétise déjà un signe de Qiyamah. Car parmi les petits signes de Qiyamah, il y a le fait que sur les mimbar, personne n'abordera plus les sujets des signes de Qiyamah. Donc si on n'aborde plus, déjà on est en train de concrétiser un signe, mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il peut y avoir dans certains endroits, chez certaines personnes,
hein, des désirs innés d'être imam Mehdi ou qu'on ait en nous l'impression que certaines personnes soient Dajjal, et cela par méconnaissance des textes. On avait reçu il y a quelque temps sur Internet, parce qu'il y a de tout qui circule, le bien comme le moins bien, hein, il y avait l'image d'un enfant qui était né avec un œil au niveau du front, et alors c'était soit un œil au niveau du front, en tout cas, c'était des signes qui ressemblaient à Dajjal. Et j'avais reçu ce mail, et la personne m'avait demandé, est-ce là la naissance de Dajjal ? Je dis, mais le simple fait de croire que Dajjal puisse être né, donc c'était cette année, c'était en 2008, cela reflète une méconnaissance totale des textes qui existent, pourtant ce sont des textes de base concernant la venue de l'imam Dajjal, la venue de Dajjal. Le simple fait de ne pas savoir que les Sahaba avaient déjà vu Dajjal dans une île déserte, Hadith al-Jassasa, cela veut dire que nous n'avons pas connaissance de ce texte. Et donc comment pouvons-nous penser que Dajjal serait né en 2007 ou en 2008 par un intermédiaire des photos qu'on a vues, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà commenté l'existence et la vie de Dajjal dans un endroit qui n'est pas connu des êtres humains. Donc si on n'aborde pas les sujets en détail, ben, parfois on peut aller à des thèses ou alors on peut renier certaines choses par manque de connaissances. D'où l'importance de traiter de ces points également. Parfois certaines personnes disent que oui, il a trop de problèmes, il a beaucoup trop de problèmes, il n'a rien qui m'a mérité pour sauver. Mais si on tend vers cet esprit fataliste, ben évidemment on va laisser les problèmes comme ils le sont. Si on se dit que l'imam Mehdi va venir, il va régler tous les problèmes, ben on ne va rien faire. La communauté connaît des problèmes, les jeunes sont dans la drogue, nos jeunes ils vont en boîte le samedi soir, et pire encore, l'alcool est devenu quelque chose de courant, on se dit que l'imam Mehdi va régler tout. Alors comme si l'imam Mehdi, il va venir à La Réunion précisément pour régler le problème de La Réunion, il va aller à Maurice, il va aller à Madagascar, il va aller dans tous les pays du monde, ce n'est pas son travail l'imam Mehdi. Et de cette manière, c'est comme si on se désengage du amana, on se désengage du dépôt qu'il y a sur les épaules de chaque personne, de la propagation du bien et de l'interdiction du mal. Un exemple, la semaine prochaine, Inch'Allah, se déroulera à Saint-Pierre, un séminaire, pour ne pas utiliser des mots trop complexes, un séminaire, ça va utiliser un terme, un séminaire ludo, je ne sais pas quoi, bref, c'est des termes tellement compliqués, mais comprenez, c'était un séminaire, une réunion consacrée aux jeunes de 15 à 25 ans, qui ne sera pas semblable à un jour. Ce ne sera pas un jour, il y aura ta'lim de ce temps, où les jeunes y viennent, mais pas toujours présents, ils sortent, ils reviennent de la masie, il n'y a pas de contrôle, non. Ce sera un séminaire où 10 jeunes seront sélectionnés par un alim. Chaque alim sélectionne 10 de ses élèves, et il amène ses élèves. Et l'accès au site est réservé qu'à ces personnes, et l'accès n'est permis que par un badge. Donc déjà, il y aura un contrôle total des personnes qui y viennent. Et les sujets qui seront abordés certes en huis clos, mais ce sont des sujets de société. Ce sont des sujets de société. Il y aura trois grands thèmes qui vont être exposés sous la forme de conférences. Et ensuite, il y aura, Inch'Allah, des groupes qui vont se former, des modules, où chaque alim prendra en main un groupe de personnes, de jeunes, et il y aura une discussion, un échange. Parmi les sujets abordés, il y a la drogue, il y a l'alcool, toutes les addictions, les sorties en voie, etc., etc. C'est-à-dire tous les problèmes que connaissent nos jeunes, Inch'Allah, seront abordés en plus des petits, de ce qu'on appelle les tarhib du bayan, des bayans un peu plus classiques, en guillemets. Mais ce genre d'initiative, cela reflète une prise de conscience de certains ulama, et surtout des ulama du Sud, une prise de conscience des ulama sur l'importance de prendre en main notre jeunesse. Et le constat que la jeunesse est en train de se perdre. Alors si on se disait que l'imam Mehdi viendra, il réglera tout ça, on va laisser ces jeunes perdurer de leur péché, de leur éloignement de la religion, et personne n'essaiera d'apporter une solution. Donc ça, c'est en résumé l'importance de connaître les signes de Qiyama. Et le premier signe de Qiyama qu'on avait vu, c'était, ça paraît être quelque chose de très basique, quelque chose de très simple, mais la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sa venue marque la fin du nubuwat, la fin de la prophétie, et sa venue marque la fin de la révélation. Il n'y aura plus de lien de texte révélé entre Allah, c'est-à-dire entre le Khaliq et le Makhlouq. C'est-à-dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la révélation du Coran, et après le Coran, il n'y a plus rien. Et on a vu dans un hadith, une des épaules, le prophète elle pleurait abondamment après le décès du prophète sallam, et certains sahaba s'étonnaient pourquoi est-ce qu'elle pleure. Quand on sait que la mort c'est quelque chose d'écrit par Allah, il n'y a pas à s'affliger autant. Il y a la réaction humaine, mais pas au-delà de ça. Et là, cette sahabi, elle disait que ce n'est pas par rapport au décès même du prophète sallam, il y a de ça, mais c'est parce que inqita al-wahid, le fait que la révélation soit terminée. Il n'y aura plus de relation jamais de la vie jamais plus jusqu'à la fin du monde entre Allah et les créatures par des textes. C'est pour ça que la venue du Prophète sallam, c'est déjà c'est le premier petit signe de Qiyama. On avait vu également que le fait qu'il y aura avant la fin des temps une quantité de kazab, de personnes qui prétendront être prophètes. Et dans certains hadiths, il dit qu'il y aura à peu près 30 personnes qui vont prétendre être prophètes. Et la dernière de ces personnes sera Al-Masih Ad-Dajjal. La dernière de ces personnes qui prétendra être prophète, ce sera Ad-Dajjal. Comme le hadith qu'on avait vu, ça c'était la dernière séance. An Abi Hurayra an anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yub'athu ad-dajjaluna kadhabuna qareebun min 30 kullun yaz'umu annahu rasulullah. Sahih al-Bukhari. Donc rapporté par Bukhari, le qiyamah n'aura pas lieu tant qu'il n'y aura pas une quantité de Dajjal. Et quand on parle de Dajjal, c'est de menteur. Hein, c'est le sens littéral. Le nombre sera proche de 30. Et chacun prétendra être le prophète d'Allah. Et dans un hadith de Imam Ahmad, « Akhiruhum al-a'war al-Dajjal » Et le dernier parmi eux, ce sera le borgne al-Dajjal. Et dans les commentaires, il citait quel était le nom des grands Kazabun, les grands, les Aswad al-Aswad, ou alors Musaylama al-Kazab, etc., etc., al-Aswad al-Ain, si je cherchais son nom. Et parmi ces phénomènes, parmi ces spécimens, il y a l'apparition d'une, je dirais, une secte, ou alors plutôt l'apparition d'une personne en Inde, il y a une certaine époque, c'était donc en 1900, cette personne s'appelait Qadian, hein, Al-Mirza Ghulam Ahmed, surnommé Qadian, et cette personne a affirmé être prophète, a affirmé recevoir une révélation de la part d'Allah, pouvoir changer certaines règles de la religion, à un tel point qu'il a eu une telle écoute de la part des gens, qu'il y a un mouvement qui s'est réellement formé à cette époque en Inde, c'est le mouvement Qadianiya, et c'est un mouvement malheureusement qui reste, pour lequel il reste encore des traces dans certains pays. Alors juste pour voir l'historique, comment une fitna peut se développer? On peut se poser la question lorsqu'on parle du destin, lorsqu'on parle du taqdir l'autre fois, on s'est dit que oui, mais tout ce qui arrive vient de la part d'Allah, bon comme mauvais. La question qui se pose, comment Allah peut-il laisser un homme prétendre être prophète et laisser des milliers, je ne sais pas si c'est des millions, mais en tout cas des milliers de gens dans beaucoup d'endroits du monde suivre cette personne? Mais ça, c'est la sunnah d'Allah. Allah a décrété qu'il y aura ce fitna. Allah laisse le fitna se développer. Maintenant, celui qui a iman de son cœur, il saura que c'est un fitna et il ne va pas suivre son instinct, c'est hawa. Et celui qui ne fait que suivre ce qu'il a envie de faire, ben il tombera dans le fitna de cette personne. Et cette question, on peut le remettre sur la table pour la création de Shaytan aussi. Pourquoi avoir créé Shaytan qui a fait la promesse avec Allah, « La uruyannahum ajma'in » Shaytan a dit avec Allah en ce sens qu'il va essayer de détourner tout le monde, « ajma'in » Et Shaytan a dit « Thumma la'adiyannahum min bayni aydihim » وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Il a dit comment il va faire. Il va venir devant, derrière, à droite, à gauche. C'est-à-dire il va utiliser tous les stratagèmes pour amener le maximum de gens avec lui dans le Jahannam. Car Shaytan, il sait que sa destination c'est l'enfer et son objectif c'est d'y amener le maximum de personnes. Mais pourquoi Allah envoie Shaytan? Pourquoi Allah envoie Dajjal? Pourquoi Allah laisse des gens prétendre être prophète et emmener avec eux des centaines voire des milliers de personnes dans la perdition? C'est la sunnah d'Allah dans la création qu'Allah envoie les anbiya qui apportent le message du droit chemin et Allah laisse en même temps les shayatin al-insi wal-jinni développer le da'wah et avec la faculté de distinguer le bien et le mal qu'Allah a donné à chaque être humain, chacun fera son chemin et nous le demandons le chemin de sirat al-mustaqim. Donc pour revenir à l'historique, pour voir comment une fitna peut se propager comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc historiquement, c'était quelqu'un qui à son époque était donc musulman. C'était un musulman et c'était même un grand alim. Et sa spécialité, c'était les débats contre certains représentants d'autres religions monothéistes. Et il était vraiment le spécialiste en la matière. Alors, en l'an 1901, il a prétendu être prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait, comme tout prophète qui se respecte, il avait fait des prophéties, c'est-à-dire il avait prédit certains événements, mais manque de peau, aucune de ses prédictions ne s'est réalisée. C'est vraiment pas chanceux, tout ce qu'il avait prédit ne s'est pas réalisé. Et entre autres, il avait dit qu'il ne mourra jamais avant 1920, mais il est mort en 1908. Ça, c'est juste un exemple. Il avait dit également que l'endroit où il réside, hein, la peste n'y entrera pas, alors que la peste y est entrée et a fait beaucoup de morts. Alors, un problème se posait pour ce Mirza Ghulam Ahmad, et certains alims, ils ont fait une expertise psychologique de cette personne, les rapportés de ses proches qu'il avait des troubles psychologiques importants. Au-delà du fait qu'il a osé dire ce genre de choses, il avait des troubles psychologiques, donc il était un peu, comment on appelle ça, un mythomane, disons, on pourrait dire. Et lorsqu'un prophète, donc, prétend être prophète d'Allah, ben, il doit apporter des mu'jizas, des miracles. Alors lui ne s'est pas fatigué. Il était vraiment intelligent. Il a dit que je ne crois pas aux miracles. Le fait de ne pas y croire, ben, il n'y a pas besoin de ne vous casser pas la tête, n'y croyez pas, donc ne me demandez pas d'accomplir quelque chose à propos duquel on ne doit même pas croire. Là, regardez comment son fitna était extraordinaire. Il a même pu détourner certaines personnes du hajj. Il a fait son village, hein, l'endroit où on fait le tawaf, et où on fait le tawaf, où on vient accomplir le hajj, et pour certains de ses adeptes, c'était leur qibla. C'était également leur qibla. Également, il avait fait, ça c'est ses thèses, hein, ce serait apprécié par certaines personnes de le jour, il avait dit que l'opium c'est nusfutib, que l'opium c'est la moitié de la médecine. Ça, ce sont des thèses pas mal, hein, ça se rapproche un peu de certains mouvements musicaux qu'il y avait dans les pays d'Amérique du Sud, et qu'il dirait à beaucoup de jeunes, qui dirait qu'il dit que l'opium, la consommation de stupéfiants, c'est la moitié de la santé, la moitié de la médecine. Et il y avait pas mal de choses comme ça. Alors, et jusqu'à une époque où il a commencé à interpréter les versets du Coran pour montrer, parce qu'il y a bien des versets qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Lorsqu'Allah ta'ala le décrit comme Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, il a changé le tafsir en disant que Khatam, ça ne veut pas dire le dernier, c'est pas comme quand on dit Khatm. Khatm al-Quran, c'est quoi? C'est lorsqu'on complète. Il a dit Khatam, c'est comme une bague. Et effectivement, le mot Khatm en arabe veut également dire bague. Regardez comment il était, c'était un pervers. Hein? Il dit, le mot Khatm en arabe veut dire bague. Il a voulu dire que Khatm al-Nabiyyin, c'était Ajmal al-Nabiyyin, le plus beau des prophètes. Pas le dernier, mais le plus beau des prophètes. Donc, Ibn Kathir, Al-Baydawi, Al-Qurtubi, etc., etc., ils s'étaient tous trompés sur, selon lui, l'interprétation de ce terme. Alors, et en 1907, enfin, il y avait un grand alim de l'Inde également, très connu. Jusqu'à maintenant, il y a ces livres qui sont traduits en français, qui s'appellent Sana'ullah al-Hindi. Sana'ullah al-Hindi a une confrontation, un débat avec cette personne. Taïb. Et ils avaient fait cette promesse que la personne qui va perdre dans cette confrontation va, fada'a ala al-kazab, cette personne va mourir atteinte de la peste ou du choléra. Et à l'issue de ce débat, Sana'ullah a eu le dessus, c'était quelque chose de flagrant, car la vérité prime toujours sur la fausseté, et Sana'ullah a vécu 40 ans, alors que cette personne est morte quelques temps après, atteinte de choléra. Il est décédé dans la ville de Lahore. Et on connaît cette histoire, comment il est décédé. Il est décédé dans les toilettes. Il est décédé dans les toilettes, c'était les toilettes indiennes, imaginez, et il est décédé, le visage dans l'endroit où les impuretés sont évacuées. On connaît qu'un prophète qui meurt doit être enterré l'endroit où il meurt. Donc ses disciples ont respecté la tradition des Anbiya et il a été enterré dans cet endroit disgracieux. Donc c'était juste pour avoir une idée que, et malheureusement, ça peut paraître anecdotique, ce genre de personnage, ça peut paraître comme un personnage marginal, mais il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres parlant de sa biographie qui sont traduits dans énormément de langues et malheureusement distribués en quantité incroyable en Afrique. Il y a des magazines comme nous, on a l'Islam, il y a des magazines réguliers pour ce genre de mouvement également. Il y a en ce moment dans le monde 47 madrasas et 343 masjids qui soutiennent l'idéologie que cette personne, Mirza Ghulam Ahmad Qadian, est le dernier des Anbiya. Donc voyez comment, si on ne met pas en garde les gens contre les signes de Qiyama, ben une personne qui n'a strictement aucune notion de ilm, de din et de connaissance sur les signes de Qiyama, une personne peut être induite en erreur. 20 minutes, on a encore 10 minutes, Inch'Allah. Alors, parmi les signes de Qiyama, c'est là qu'on commence véritablement, j'étais arrêté là l'année dernière, parmi les signes de Qiyama, c'est quelque chose, on va parler en résumé, on essaie de regrouper, parce que les petits signes sont plus nombreux que les grands signes. Et évidemment, on a envie plutôt d'entendre parler de Imam Mahdi, Dajjal, etc. Mais il faut quand même connaître les petits signes, mais c'est extrêmement long. Vous voyez ? Parmi les petits signes de Qiyama, hein, une dégradation dans la pratique de la religion. que d'année en année, quand je parle d'année en année, c'est depuis les Sahaba jusqu'à la fin du monde, la pratique du dîn va être amoindrie de manière conséquente. Les musulmans vont perdre les réelles valeurs du dîn et les réelles qualités du mu'min. Et dans un hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, c'est un hadith que tout le monde connaît par cœur sans en être conscient. قلت يا رسول الله أي الناس خير قال أنا وأقراني قلنا ثم ماذا يا رسول الله قال ثم القرن الثاني ثم ماذا والقرن الثالث. Bon, on a choisi le riwayat, c'est pas la version la plus facile, mais on entend ça dans le khutba, hein, que la meilleure des communautés c'est ma communauté, hein, ensuite celle qui vient après moi, ensuite celle qui vient après moi. Ce hadith qui est cité dans tous les khutba. Dans ce hadith, le prophète explique de manière claire que la meilleure des communautés c'était les sahaba, ensuite ceux qui vont venir après eux, c'est-à-dire les tabi'in, ceux qui ont vu les sahaba, ensuite ceux qui vont venir après eux, ce qu'on appelle les tabi'in tabi'in ou les atba' tabi'in, ceux qui ont vu les personnes qui ont vu les sahaba. Et dans la science du hadith, dans l'ilm al-hadith, on appelle ces trois générations al-qurun al-mufaddala, les meilleures des générations. Tout ce qui a été dit dans ces qurun al-mufaddala sont considérés comme étant des choses sûres, des valeurs sûres de la religion. À partir du moment où on dépasse trois siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne tient pas réellement compte de ce qui a été dit sans avoir fait une vérification et avoir véritablement pris conscience que ces paroles remontent aux tabi'in et aux prophètes, aux sahaba et aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous assure, le fait d'être aussi minutieux, hein, cette précision, cette recherche de la véracité des sources, c'est ce qui fait que notre dîn restera pur jusqu'au Qiyam. Le fait qu'Allah Ta'ala ait pris la garantie de protéger le Coran, ça nous distingue des autres communautés qui sont venues avant nous. Et le fait que, comme les ulama disent, qu'une des spécificités de cette communauté, c'est ilm al-isnad, les chaînes de narration, ce qui fait que personne ne peut dire une bêtise dans la religion. Personne ne peut dire qu'un tel l'a dit, un tel bouzouk l'a dit, tel alim a dit, je suis d'accord, mais montrez-moi vos preuves. Montrez-moi votre isnad, montrez-moi que cela remonte à tel sahaba, ou à tel tabi'in, ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là on est d'accord. Parce qu'imaginez que dans 35 ou 40 pays où il y a des musulmans, si chacun amène sa touche personnelle, chacun amène sa petite histoire, ben imaginez que dans 30 ou 40 ans, quel visage aura la religion. Ça, c'est une sécurité que Allah Ta'ala a accordée à cette ummah, qu'aucune ummah n'avait eu, la chaîne de narration qui nous permet de remonter à chaque parole, chaque chose éprouvée, et on peut remonter au tabi'in, au tabi'in, au sahaba et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pourquoi est-ce que le dîn va diminuer d'année en année, de siècle en siècle? On peut résumer cela en trois petits signes, en trois raisons. Premièrement, le hubb ad-dunya, l'attachement pour les biens de ce monde. Et lorsqu'on parle d'attachement pour les biens de ce monde, cela ne veut nullement dire être riche. Être riche n'est pas synonyme de perdition. Car dans ce cas, Abu Bakr et Uthman, pour citer que deux parmi les califes, auraient été dans la perdition. Uthman était une personne immensément riche et Abu Bakr était également un commerçant très aisé. Mais le fait qu'ils avaient les moyens, ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans le mauvais chemin. C'est-à-dire, ce que le Prophète veut dire par hubb ad-dunya, c'est l'attachement avec les biens de ce monde qui fait oublier au propriétaire toute relation avec Allah. Et dans un hadith de Abdullah ibn Ja'far, dit que le Prophète a dit Shiraru ummati alladhina wulidu fil na'im wa ghadaw bihi ya'kuluna min at-ta'am alwana. Ces personnes, les pires de la communauté, c'est qui? C'est-à-dire de la Ummah, comprenez? Ce sont ces personnes qui sont nées dans l'aisance, qui ont tout ce qu'ils veulent à manger et qui ne prennent aucune précaution dans ce qu'ils disent. En commentaire, les muhadithim disent que ce sont les personnes qui sont prêtes à dire tout et n'importe quoi sans réfléchir aux limites. C'est-à-dire, ces personnes n'ont aucunement la crainte d'Allah dans ce qu'ils disent et comprennent également dans ce qu'ils vont faire dans leur vie. C'est-à-dire, en même temps, ils ont les ni'mat qu'Allah les a accordés, mais paradoxalement, ils ne reconnaissent pas que cela vient d'Allah et ils n'ont aucun frein, aucune limite dans leur vie, et leur vie est portée vers le dunya sans donner, sans porter attention aux interdits ou aux obligations. Donc, on rappelle bien, être riche ne veut pas dire être de la perdition. Et regardez par exemple la bataille de Tabouk, hein, comment Abu Bakr a aidé, comment pour la campagne de Tabouk, Uthman a donné une somme considérable, comment Uthman a été capable d'acheter le puits pour les musulmans également, c'est-à-dire dans une société, Allah Ta'ala a décrété qu'il y ait des personnes aisées et des personnes moins aisées. Et chacun a son rôle et il y a une relation de dépendance entre les deux catégories. La personne qui est dans une situation précaire, difficile, a besoin de la personne aisée. Mais la personne qui est riche, elle aussi, a besoin du pauvre, quand ce pauvre lui permet d'accéder au paradis. Par l'intermédiaire de la zakat, des sadaqas et du ihsan. Donc, on dit dans le hadith que « Ya'ti ala nasi zaman hammatuhum butunuhum » viendra une époque où, et regardez, chacun il fait son autocritique, est-ce que nous ne vivons pas cette époque, est-ce que nous ne retrouvons pas ces défauts en nous, que l'objectif de leur vie, c'est quoi? De remplir leur ventre. Himmatuhum butunuhum, c'est-à-dire, leur but, c'est quoi? C'est de manger, c'est-à-dire, amasser les biens, pour jouir de ces biens. Washarafuhum mata'uhum. Plus une personne a les biens, a des biens, a des signes extérieurs de richesse, plus cette personne est considérée, en ce sens. Waqiblatuhum nisa'uhum. Leur qibla, c'est les femmes. C'est-à-dire, l'attention, c'est vers les femmes. Si on écoute les annonces de certaines séries télévisées qu'on ne citera pas, mais qu'on parle d'amour, gloire et beauté, comprenez que tout est résumé là-dedans. Que la conception du bonheur pour la vie occidentale en 2005, 2006, 2007, 2008, c'est quelqu'un qui a l'amour, qui a la gloire, qui est beau, et on pourrait rajouter cela, avec cela, la richesse, et c'est là la conception de l'homme heureux. وَدِينُهُمْ دَرَاهِمُهُمْ وَدَنَانِيرُهُمْ. Leur religion, c'est les dirhams et les dinars. C'est-à-dire qu'ils ne croient qu'au bien terrestre. أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ. Ce sont là les pires des gens. À nous d'analyser dans notre vie. Est-ce que notre vie, nos attentions, nos émotions, nos peurs, nos craintes, est-ce que cela ne tourne pas uniquement autour du dunya? Si on analyse le temps qu'on consacre pour le dîn et le temps qu'on consacre pour l'akhirat, on comprend, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans cette spirale où nos attentes, nos craintes, nos désirs, tout est attaché autour de ce dunya? Une question qu'on peut se poser, si une personne ne se réveille pas demain pour la salat de Fajr, est-ce qu'elle va pleurer? Est-ce qu'il nous est arrivé de pleurer par tristesse pour une salat de Fajr qu'on avait ratée? À nous de voir, est-ce que nous avons un tel degré d'attachement pour notre dîn? Est-ce que quelqu'un serait attristé si elle voit que le mois de Shawwal s'est écoulé et qu'elle n'a pas pu faire ses 6 Shawwal? Et donc elle n'a pas eu la mention d'une année passée dans le jeûne parce qu'elle a été négligente. Est-ce qu'une personne serait attristée par ça? Si on dit à quelqu'un que nos jeunes sont dans des situations difficiles, dans beaucoup de fitnas, des fitnas que vous n'avez pas connues à votre époque, il faut se serrer les coudes pour permettre à ces jeunes-là de remonter la pente pour les ramener vers le droit chemin. Est-ce qu'on aurait une réaction aussi prompte, aussi rapide que si le message venait du journal ou d'un ministère que les banques sont en train de faire faillite, retirez votre argent de la banque, achetez des coffres et mettez votre argent dans les coffres? Je vous assure, si le i'lan est fait ce soir dans l'actualité de 23h, pour Fajr, on serait tous auprès des professionnels qui vendent des coffres et à l'heure qui suit, on serait dans la banque pour retirer nos économies. Pour le dunya, on est prêt à tout. Mais pour le himma de din, l'attachement pour le din, à nous de faire notre propre jugement, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, pour quelle chose. Lorsqu'Allah Ta'ala dit le Coran, hein, en s'adressant aux musulmans, « Qu'u anfusakum wa ahlikum nara » protégez-vous et protégez vos familles du feu, c'est-à-dire faites en sorte que vos femmes, vos enfants et vous-même avant tout, ne vous détournez pas du droit chemin, et reste dans l'adoration d'Allah et ne prenne pas le chemin des shaitans. À nous de voir, est-ce que nous prenons en considération cet appel et cette mise en garde de la part d'Allah au même plan, au même degré que si le ministère des Finances à Bercy disait à chaque citoyen français de retirer, que c'est le moment de retirer votre argent de la banque. Ça nous donne une approche de l'importance que nous donnons au dîn et au dunya. Et dernier point, parmi les choses qui font que la ummah se détournera de la religion de siècle en siècle, le fait que l'islam, la pratique de la religion va diminuer. De quelle manière? Dans un hadith qui est un peu long, qu'on citera juste en français, et c'est un hadith extrêmement intéressant rapporté par At-Tabrani, le Prophète a dit qu'il y a une époque où la religion a avancé, et arrivera une époque où la religion va reculer. Et là, il explique. Quand est-ce que la religion a avancé? C'était après le Prophète a fait sa propagation, sa da'wa, la prophétie, etc. Il dit qu'il y avait un tel degré de din dans chaque tribu, dans chaque famille, que dans وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينَ أَنْ تَفْقَهَ الْقَبِيلَةُ بِإِطَيْهِ. Que dans une qabila, que dans une tribu, si on recherchait, on pourrait trouver qu'un pécheur ou deux pécheurs, c'est tout, pas plus que ça. Et ces pécheurs étaient déshonorés dans la communauté. Et s'ils arrivaient à parler, on ne portait pas attention à ce qu'ils disaient, et c'était donc des gens méprisés. Et maintenant, arrivera une époque où le dîn va reculer. Un tel point que dans une tribu, comprenez par une tribu, une famille, une grande famille, on ne trouvera que deux faqih, que deux personnes qui ont la connaissance religieuse, qui sont attachées au dîn. Et là aussi, ces personnes seront méprisées et opprimées. Et s'ils osent parler, on ne les prendra pas en considération. La yajidouna ala dhalika a'wanan wala ansara. Personne ne voudra les aider dans la propagation du dîn. Et certaines personnes diront même dans une adversion, atuti'nani alayna. Est-ce que vous allez suivre donc ces personnes? Donc ça, c'est la différence entre le début de l'islam et la fin de l'islam. Donc un recul de la religion, un recul dans la pratique. Et ce hadith très connu, hein, bada al-islam ghariba wa sayaoud kama bada ghariba fatuba lil-ghuraba, ce dîn a commencé étrange et il retournera étrange. Et le prophète a annoncé la bonne nouvelle aux ghuraba, à ces personnes étranges qui restent attachées à leur dîn malgré que les gens les considèrent comme en décalage. Lorsqu'on voit aujourd'hui une personne qui est ferme dans sa religion, on dit que c'est quelqu'un qui vit en décalage avec la société. On irait même jusqu'à dire que c'est un extrémiste. Pourquoi garder la barbe? Pourquoi venir 5 fois à la masjid? Pourquoi mettre son pantalon dessus des chevilles? Pourquoi faire telle chose alors que les lois ne les obligent pas, etc., etc. C'est-à-dire que même si ces pratiques ne sont pas en contradiction avec les lois du pays, mais on finira par dire qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi attaché à la sunna, et on fera un parallèle entre cette personne et une personne qui a des convictions extrémistes parce qu'elle reste attachée à son dîn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué c'est quoi la personne qui reste sur Ghuraba, c'est qui? Alladhina yumassikuna bi kitabillahi hina yutrak wa ya'maluna bis sunnati hina tutfa. Ce sont ces personnes qui jusqu'à la fin des temps resteront attachées avec le Coran, alors que les gens délaisseront le Coran et ils mettront les sunnats en pratique, alors que les gens délaisseront les sunnats peu à peu. Donc ça, c'était certains points qu'on souhaitait aborder aujourd'hui concernant le recul de l'islam. Et Allah Ta'ala prédit que l'islam reculera, et là on parle d'un recul, et après les grands signes de Qiyamah, après le soleil se lève de l'autre côté, et après ces événements, là il y aura ce qu'on appelle la disparition de l'islam et des masha'ir, et tout ce qui représente l'islam. Comprenez par cela la reprise de la Kaaba. Allah Ta'ala reprendra la Kaaba, et Allah Ta'ala reprendra le Coran dans les manuscrits écrits, et min sudur rijal également, les Coran seront repris des cœurs des gens. Et la pensée d'Allah même n'existera plus, il n'y aura plus une personne pour dire Allah, Allah. Et quand le nom d'Allah ne sera plus prononcé sur ce dunya, là le qiyamat aura lieu, et là aura lieu la destruction, ce qu'on appelle zalzalatu sa'a. Et on rappelle que le Prophète a dit que la première chose qui va disparaître dans la communauté, ce sera quoi? Al-khushu'a, la dévotion. La dévotion dans les actes d'adoration, c'est la première chose qui va disparaître. Il dit que yushiku an tadkhula masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khashi'a. Il dit que vous allez à une époque entrer dans la masjid où il y a toutes les personnes réunies pour la salat al-jum'a, mais vous ne trouverez pas une personne dévouée dans son ibadat, dévoué dans ses actes d'adoration rapportés par Tirmidhi. Il va y avoir un hadith, ça c'est, on parlera la prochaine fois, que le Prophète dira qu'il viendra une époque où les gens feront le hajj, les gens feront la salat, les gens feront le somme de Ramadan, mais ces ibadat n'auront plus de fond. Il n'y a pas de réel iman dans le cœur des gens. Le Prophète n'a pas dit que les gens vont délaisser les ibadat. Et ce sera les mêmes actions, le même hajj, le même salat, le même saum, le même carême, les mêmes ibadat, mais sans fond. Et on ne trouvera pas la réalité du iman de l'islam. Ce qui fait que lorsque il n'y a plus de dévotion, on ne comprend plus qui est Allah, et ça c'est grave, quand on ne sait plus qui on adore, quand on ne sait plus que comment Allah est grand et gigantesque. Je vous expliquais hier, dans un autre endroit, que les hadiths, ça c'est des hadiths qu'on doit garder à l'esprit. Le prophète sallam, une fois il a essayé de nous faire comprendre la grandeur d'Allah, on va terminer là-dessus, il disait que si on compare le septième ciel, c'est-à-dire le sama ou dunya, pardon, le premier ciel, ce qui est visible, avec le deuxième ciel, c'est comme une bague qu'on a jetée, fait ardin falat, c'est-à-dire dans un champ, dans un terrain vague. Prenez une petite bague, vous jetez dans un champ, qu'est-ce que ça représente? Un millionième. Ça, c'est le septième ciel, le premier ciel, pardon, par rapport au second ciel. Et le second ciel, par rapport au troisième ciel, pareil. Comme une bague jetée dans un champ. Le deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, jusqu'au septième ciel, c'est pareil. Comprenez comment les cieux sont immenses. Et là, on arrive au Kursi. Pas le trône d'Allah, le Kursi. Et le Kursi, par rapport au septième ciel, c'est pareil. Comme si on prenait une bague et on jetait dans un champ, dans un terrain vague. Et le Arsh d'Allah, par rapport au Kursi, c'est comment? C'est comparer ce champ gigantesque par rapport, et là, pour ça, j'utilise la métaphore de l'autre sens, assez technique, comparer ce champ par rapport à la petite bague que vous y avez jetée, ça, c'est le Arsh d'Allah par rapport au Kursi. Et maintenant, imaginez comment est Allah lui-même. On ne peut pas imaginer, mais comprenons c'est quoi la grandeur d'Allah et comment nous, on est infimement petits. Et qu'auprès du trône d'Allah, il y a des anges dans cette ayat qui disent que entre leur nuque et shuhmatu udunayhi et l'aube de l'oreille, comprenez que les anges n'ont peut-être pas les oreilles comme nous, mais c'est une métaphore pour qu'on comprenne, entre une distance aussi infime qui pour nous représente 7-8 cm, il y a, je me tromperai peut-être sur les termes du hadith, soit la distance entre le ciel et la terre, soit une distance de milliers d'années de safar. Comprenez la grandeur des malaïka et comprenons comment Allah est grand par rapport à ses anges qui ne sont rien par rapport à Allah et nous comment on est infiniment petits. Et c'est vers ce Rab immense qu'on reviendra un jour et qu'on rendra compte et qu'Allah fasse que nos actions en ce jour soient acceptées par Allah et qu'Allah nous accorde le paradis. Qu'Allah donne un tawfiq. C'est vrai que ce soir, c'est plutôt un tableau noir qu'on a dressé. Bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal de parler que du recul de la religion. On aurait aimé parler de choses positives. Mais quand on a, dans une demi-heure, c'est 5 ou 6 petits signes de Qiyamah qui sont regroupés. Et de toute façon, quand on parle de petits signes de Qiyamah, ce sont que des choses en général négatives. On ne s'attend pas à voir des choses extrêmement joyeuses. Donc, Dajjal lui-même, c'est une calamité. Gog et Magog, c'est un désastre. Vous comprenez? La bête qui sort, ce sera quelque chose de terrible également. Etc, etc. Mis à part Imam Mehdi, qui apporte un réel rayon de soleil, et Isa alayhi salam, qui apporte la paix pour l'humanité tout entière, mis à part ça, ben, le fait que le dunya va vers va en inclinaison, on comprend bien que la situation va s'empirer. D'ailleurs, n'importe qui peut regarder le nombre de meurtres qu'il y a, le nombre de faits divers, le nombre de choses qui nous touchent profondément, qu'on voit dans l'actualité. Ben, tout cela montre bien que les signes de Qiyamah sont en train de se concrétiser. Il y a une dégradation dans les mœurs, dans les mentalités, qui fait que les choses ignobles, il y a 50 ans, paraissent normales de nous. Qu'Allah nous protège de ces fitnas, qu'Allah protège nos enfants et incitons nos jeunes, s'ils ont entre 15 et 25 ans, à se rapprocher de leur moulissab respectif dans un des médiasas de Sani, ici, Saint-Petit, de la Tani ou ailleurs, et de s'inscrire dans la liste. On a eu un quota, c'est un quota pour la ville de Saint-Denis, chaque ville a un quota, et faire le maximum pour que nos jeunes, nos adolescents fassent partie de ces personnes qui vont y aller. Et je vous assure que, bi-idhnillah, inshallah, ce sera quelque chose d'extrêmement profitable et qu'après ce séminaire, il y aura un suivi permanent pour traiter de manière régulière de ces problèmes, des rencontres permanentes avec des alim volontaires et les jeunes qui se déclareront en difficulté. Ça, c'est des efforts qu'on peut accomplir et Allah Ta'ala nous vient en aide. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.